Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver. Donc, la BPI ce soir poursuit son exploration du web par le documentaire ou du documentaire par le web. C'est donc l'événement singulier pluriel que nous faisons pour la cinquième année avec nos amis du blog documentaire, dont Nicolas est un digne représentant ce soir. Et le seul représentant, 50% du blog documentaire. Et donc ce soir, nous allons évoquer... Alors hier, pour ceux qui étaient présents, nous avons déjà beaucoup parlé de rapport à l'action, voire d'activisme, de l'engagement à travers le web, des différentes manières de s'engager à travers le web. Et ce soir, nous allons un petit peu poursuivre cette dynamique, enfin la démarche de l'engagement et de la création à travers le web sur la question des migrants et des réfugiés. Et je vais tout de suite passer la parole à Alexandra Galitsyn-Lumpe, qui est directrice du programme des non-lieux de l'exil, avec qui nous avons régulièrement l'habitude de travailler, qui est anthropologue et qui va vous présenter les intervenants de ce soir qui ont coordonné ou créé différents projets et qui vont vous être présentés ce soir. Voilà, bonne soirée.
Merci Jérémy. Je voudrais dire tout mon plaisir d'être ici et redire à quel point je pense que ce sujet est central pour penser l'exil, pour poser les questions des représentations des migrants, comment elles se véhiculent, sous quelle forme, qu'est-ce que rendre compte veut dire, qu'est-ce que s'engager veut dire. C'est une question centrale, d'autant plus centrale qu'il y a, vous le savez, une espèce de surmédiatisation de la migration et que cette surmédiatisation, finalement, dans certains cas, invisibilise plus qu'elle ne rend visible et qu'il y a là toute une question sur comment, sous quelle forme, comment penser la situation du web documentaire, des créations sonores et que j'espère que nous aurons l'opportunité de les aborder. Alors, je vais vous présenter les invités en vous signalant tout de suite que malheureusement la quatrième invitée, enfin quatrième dans la liste, Charlotte Boitiot, co-réalisatrice du web documentaire La boue au ventre, ne pourra pas être présente. Par contre, on va présenter son web documentaire à la fin de ce panel. Alors, nous allons tour à tour entendre Antoine Chaudet, qui co-dirige l'association L'Âge de la Tortue, association qui est notamment à l'origine, enfin qui a travaillé sur une idée de Paloma Fernandez Sobrino autour d'un projet absolument magnifique d'ailleurs, qui s'appelle l'Encyclopédie des migrants. Après lui, c'est Pierre Corbinet qui viendra présenter, qui est le co-auteur d'un jeu vidéo créé par The Pixel Hunt qui s'appelle « Enterre-moi mon amour ». Et Pierre Corbinet est également auteur, journaliste et game designer. Et puis Marion Crowe, auteur du documentaire sonore « Celui qui n'a pas de terre n'a le droit qu'à une mer agitée » sur Radio Grenouille, et qui dira aussi quelques mots sur l'émission « Stalingrad Connection » sur France, sur la fréquence Paris Pluriel. Pardon. Antoine, je vous passe la parole.
Bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier la BPI pour l'invitation. Avant de vous parler de l'Encyclopédie des migrants, juste un petit mot sur l'association L'Âge de la Tortue pour que vous puissiez situer un petit peu dans quel cadre on travaille. Donc, c'est une association qui existe depuis 2001. Elle est basée à Rennes, dans un quartier dit populaire. L'objet de cette association, c'est de concevoir et de coordonner des projets artistiques. Donc c'est toujours des projets qui sont écrits avec des artistes, par des artistes, qui donnent lieu à des réalisations artistiques, soit dans le domaine des arts visuels, soit dans le domaine des arts vivants. Mais entre ce temps de conception et le temps de réalisation, on s'autorise à prendre des chemins de traverse et à associer au processus de création des personnes qui ne sont pas issues du milieu artistique. On travaille beaucoup avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, on travaille avec, je mets des guillemets, mais des habitants, en tout cas des personnes qui vivent et qui travaillent à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. On travaille aussi avec des décideurs publics, on travaille voilà, avec une foultitude de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur des projets artistique. On s'attache à traiter des questions de société. La question de la représentation est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on part du principe que les artistes, les porteurs de projets artistiques et culturels, ont à jouer sur le terrain des représentations et peuvent avoir une approche politique des représentations. Avec une approche qui n'est pas que politique, qui peut être aussi une approche sensible. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir au travers un projet emblématique qu'on vient de terminer, qui s'appelle donc l'Encyclopédie des migrants. À l'origine de ce projet, il y a une artiste qui s'appelle Paloma Fernandez-Sobrino, qui est auteure, metteur en scène. Elle est associée à l'Âge de la Tortue depuis une dizaine d'années, donc j'ai l'habitude de dire que c'est un long compagnonnage avec elle. Et il y a aussi un geste artistique à l'origine de ce projet. Le geste artistique, il est celui du détournement, qui est un geste assez commun dans les pratiques artistiques contemporaines. Le détournement d'un symbole de notre culture, qui est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc cet objet emblématique du XVIIIe siècle, qui est un recueil de connaissances scientifiques, qui porte aussi un projet politique, où l'idée c'est de sortir de l'obscurantisme de l'époque par les connaissances scientifiques, par une large diffusion de ces connaissances. L'encyclopédie des migrants, c'est donc une forme d'appropriation de cette encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on va conserver la forme, c'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte que ce soit reconnaissable comme étant une encyclopédie, par des aspects formels, c'est-à-dire on va conserver cette idée d'un grand livre en cuir, en plusieurs volumes, doré à l'or fin, avec un gros travail d'ornementation à l'or sur le dos. Mais à l'intérieur, le contenu n'est pas celui qu'on attend habituellement. On ne va pas trouver des textes scientifiques, on ne va pas trouver des planches d'illustration sur des techniques, mais dedans, on va trouver 400 témoignages d'histoires de vie de personnes migrantes, donc des connaissances sensibles qui sont liées à des parcours de personnes. Ces témoignages, ils sont composé d'une lettre manuscrite. Alors c'est ce que vous voyez sur la page de droite. Là, vous avez en fait un aperçu de la maquette du livre, hein, ce que vous trouvez à l'intérieur. Donc page de droite, on a une lettre intime. C'est ce qu'on a demandé aux 400 témoins de rédiger spécialement pour cette publication, une lettre intime qui est adressée à une personne de l'entourage, quelqu'un de la famille ou un ami qui est resté au pays. Et cette lettre, elle parle de la distance. On a choisi ce thème, qui est un thème assez général et qui est un thème commun à toutes les personnes qui ont vécu une expérience migratoire. Donc elle parle de la distance. Après, les approches peuvent être poétiques, plus politiques, plus ou moins personnelles. Enfin, il y a vraiment, je dirais, 400 manières d'écrire à l'intérieur de cette encyclopédie. La lettre a la particularité d'être écrite dans la langue maternelle. Nous, sur la page de gauche, on propose une traduction en français, en espagnol, en portugais et en anglais de cette lettre. Et sur la double page suivante, alors quand la lettre fait deux pages, on a la fin de la lettre, et puis un portrait photographique de la personne qui a témoigné. Voilà. Donc, dans cette encyclopédie, pas de savoir scientifique, légitimé par une forme d'académisme, mais des histoires de vie, des histoires sensibles. L'encyclopédie, c'est pas une idée qui est arrivée comme ça un matin. Paloma s'est pas levée avec l'idée d'une encyclopédie. C'est une démarche en fait qui a démarré en 2007, où elle a commencé un travail de collecte de témoignages de personnes migrantes à l'échelle du Blône. Et au départ, c'était un projet de micro-édition qui a donné lieu à 4 cartes postales qui sont assez humbles au niveau de la forme et puis de leur nombre d'exemplaires. Mais en faisant ce travail en 2007, elle a rencontré des personnes migrantes plus que 4, plus que le nombre qui ont témoigné, et ces personnes lui ont dit « mais moi aussi j'ai envie de participer à ce projet, j'ai des choses à dire ». Et donc entre 2007 et 2014, qui est le démarrage de l'encyclopédie, il y a eu 3 livres qui ont été publiés, 3 éditions, où on retrouve donc ce principe de collecte, de rencontre avec des personnes migrantes et de publication de leur témoignage. Ça me paraît important de le souligner, puisqu'il y a une forme de tâtonnement expérimental dans la démarche, où on est parti comme ça d'un petit projet artistique à l'échelle d'un quartier, qui s'est ensuite structuré, développé, et qui aboutit à ce projet ambitieux d'un livre qui regroupe 400 témoignages, qui fait 1782 pages au total. Donc on a vraiment affaire à un projet volumineux. Mais les choses doivent se construire comme ça. Et avec le temps long, avec ces projets successifs, on s'est aussi réaffirmé dans le fait, dans la nécessité de parler des migrations, pas seulement quand il y a une actualité sur les migrations, pas seulement quand il y a une actualité politique, mais sur le temps long, et qu'il fallait prendre le temps, ce temps de la collecte, ce temps de la rencontre avec les premiers concernés pour pouvoir publier des témoignages qui avaient du sens et des témoignages de qualité. Donc j'insiste un petit peu sur cette dimension du temps long qui me semble nécessaire en tant que nous, porteurs de projets en tout cas. Je parlais de geste artistique, il y a aussi un geste politique derrière ce projet. Le premier point, c'est reconnaître la valeur de ces histoires personnelles, reconnaître la valeur des témoignages de ces personnes migrantes qui témoignent dans l'encyclopédie, et de montrer comment ces histoires individuelles participent aussi de l'histoire de nos villes, mais plus largement de nos pays et de leur construction. Comment est-ce que les phénomènes migratoires participe dans le temps long à la construction de l'identité de nos villes. Alors différemment en fonction des histoires, on voit bien comment à Nantes, qui est une ville qui est directement impactée par une histoire forte des migrations, notamment dans le commerce triangulaire, va pas être la même qu'à Rennes, où on a une autre histoire des migrations, mais il y a une histoire locale des migrations, et dans un sens, l'encyclopédie des migrants participe aussi de cette histoire locale. Donc je disais, oui, reconnaître la valeur de ces histoires personnelles. Pour mener ce projet, on a mobilisé un réseau, évidemment, c'est pas notre petite association où on est trois à œuvrer au quotidien qui a pu mener ce projet. C'est un projet de grande ampleur. Les témoignages, les 400 témoignages ont été collectés entre Brest et Gibraltar dans 8 villes de la façade atlantique, sur 4 pays, donc la France, l'Espagne, le Portugal et puis le territoire d'outre-mer britannique Gibraltar. Sans cette mobilisation du réseau de villes, le projet n'aurait pas pu exister. Alors on a été un petit peu plus loin qu'une simple mobilisation des villes. On leur a demandé de s'engager à acquérir symboliquement un exemplaire de l'encyclopédie qui aujourd'hui a rejoint les bibliothèques ou les lieux de conservation du patrimoine immatériel de ces villes, donc soit des archives, soit des bibliothèques. Mais en tout cas, cette encyclopédie papier est conservée au titre du patrimoine de chacune des villes. Et je vous parlais de reconnaissance de la valeur de ces histoires personnelles. Ce geste d'achat, qui est un geste symbolique, en tout cas réaffirme la nécessité de s'intéresser, de mieux connaître et de diffuser ces histoires de vie. On a mobilisé donc au-delà des municipalités 54 structures et collectivités partenaires. Alors là c'est pareil, c'est un chiffre qui est important, mais derrière ça il y a aussi une réalité, c'est celle de la diversité des partenaires. Il y a un partenaire que vous connaissez certainement qui est un partenaire structurant pour nous, qui est le Musée National de l'Histoire de l'Immigration, qui nous a vraiment accompagnés pendant la conception du projet, pendant sa structuration, et qui a vraiment été un partenaire fort et indispensable, je dirais, pour la construction de ce projet. Et puis on a, alors là je vais faire un jeu d'échelle des partenaires qui sont plus petits, implantés au niveau local. Je pense à Brest, on a un partenaire qui est une association qui s'appelle la BAF, qui fait de l'alphabétisation de personnes étrangères. Eux, ils ont une action vraiment au quotidien dans un quartier, et réunir autour de ce projet là des partenaires avec des réalités aussi différentes, des réalités quotidiennes de travail, des cultures de travail différentes, c'était pour nous un challenge, mais c'était vraiment intéressant en termes de partage à la fois de connaissances et puis d'habitudes professionnelles. Et c'est une manière aussi de croiser nos regards sur le monde, sur un thème qui est celui des migrations. Alors on a aussi évidemment mobilisé des financements, parce que sans financement on ne peut pas mener ce type de projet. Donc la Commission européenne via un programme qui s'appelle Erasmus+, et puis des collectivités territoriales, la région Bretagne, la ville de Rennes, Rennes Métropole, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, voilà, qui nous ont permis de mener ce projet. Le projet est financé quasiment en totalité par des fonds publics. Je le dis parce que ça me paraît important aussi d'un point de vue politique de montrer qu'il y a des collectivités qui soutiennent ce type d'initiative. On a aussi mobilisé au niveau local, alors ça c'est un exemple un peu emblématique à Rennes, un groupe de réflexion, donc c'est un groupe citoyen d'une quarantaine de personnes avec des chercheurs, des élus, des personnes qui vivent dans le quartier du Blône ou plus largement à Rennes, qui se sont réunis 8 fois pendant les 3 ans où on a mené le projet pour porter un regard critique et construire le projet avec nous. Voilà, donc c'est un temps qui est hors du temps de production du projet, mais qui est plus un temps de réflexion qui nous permet nous en tant qu'acteurs culturels de prendre du recul sur notre pratique, et ça paraît indispensable quand on mène un projet participatif. Alors le mot est un petit peu galvaudé maintenant, mais un projet qui favorise la participation des personnes, je pense qu'il faut aussi se mettre des barrières et adopter une posture critique et réflexive pour éviter de tomber dans des travers d'instrumentalisation. Voilà, et donc ce groupe qui s'est réuni 8 fois nous a permis voilà, d'échanger sur ces questions, un petit peu de balises qu'on se mettait dans la manière de mener le projet. Alors, le projet, c'est aussi des rencontres, puisque les 400 témoignages ont été collectés, je vous disais, dans les 8 villes. Pour être très pragmatique, on a employé 2 personnes pendant 6 mois dans chacune des 8 villes, donc 16 personnes au total, qui ont rencontré les personnes qui étaient susceptibles de livrer leur témoignage, en leur expliquant d'une part qu'elles n'étaient pas obligées de participer, d'autre part que participer c'était un engagement à ce que la lettre se soit témoignée, qu'il y ait une photographie qui soit réalisée. Cette personne contact a aussi accompagné à l'écriture, parce que écrire une lettre intime qui va être publiée, c'est pareil, il y a une espèce d'injonction contradictoire qu'il faut réussir à dépasser en termes d'écriture. Voilà, tout un accompagnement nécessaire de notre point de vue, et on a vraiment essayé de travailler sur cette notion de rencontre, en se disant qu'il fallait aussi que ce soit un moment pour les personnes qui allaient témoigner où il puisse y avoir de l'échange et peut-être des réponses aux questions qu'elles se posaient par rapport au projet et puis plus largement l'utilisation de leur témoignage. Alors, je vois que le temps passe, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de la manière dont les portraits photographiques ont été réalisés, mais il y a voilà, des choses assez intéressantes. Tous les contenus sont disponibles sur un site internet, je vous donnerai l'adresse à la fin de ma présentation, mais les 400 témoignages sont accessibles librement et gratuitement sur un site internet. Alors j'en arrive aux productions, j'ai mis le petit logo Creative Commons sur les productions, puisque tous les contenus, comme je vous le disais, sont accessibles librement et gratuitement. C'est une volonté vraiment de faire en sorte que toute cette matière sensible qu'on avait collectée ne reste pas enfermée dans des livres papier qui sont tirés qu'à 8 exemplaires dans seulement 8 villes, mais bien qu'il y ait un principe de diffusion large et que tout le monde puisse accéder à ces histoires. Donc dans les productions, il y a la version papier de l'encyclopédie que vous voyez ici. Il y a une version numérique avec une interface qui est celle-ci, qui permet de consulter les 400 témoignages, mais aussi de faire une recherche avec des critères un peu plus fins dedans. Qui permet aussi d'accéder à une galerie avec les portraits photographiques. Voilà. On a aussi produit un film documentaire qui sera disponible à partir du mois de juin, qui retrace tout le processus de travail, puisque on a fixé des règles du jeu, mais dans les 8 villes, le projet s'est développé différemment, et le film s'attache à montrer comment justement ce projet a été réapproprié localement par les équipes. Et puis enfin, un manuel d'usage, alors ça c'est un petit guide qui accompagne l'encyclopédie et qui propose des pistes pour que cette encyclopédie devienne un support, puisque tout ce travail qu'on a mené pendant 3 ans, cette grande encyclopédie qu'on a réussi à produire, on ne souhaite pas qu'elle reste dans une étagère à prendre la poussière, mais on souhaite qu'elle devienne le prétexte aussi à continuer à parler du phénomène migratoire d'une manière sensible, d'une manière plus humaine. Et on pense notamment aux jeunes générations, puisqu'on pense que c'est à cet endroit-là qu'il y a un travail à faire pour éviter, alors c'est un grand projet, hein, je sais qu'on ne sauvera pas le monde avec nos petits moyens, mais essayer de faire en sorte en tout cas que les crispations qu'on peut connaître aujourd'hui, les replis vers soi, soient un petit peu moins à l'œuvre dans nos sociétés, et on se dit que le fait de parler un maximum d'émigration en donnant la parole aux personnes, aux premiers concernés, c'est une manière voilà, de faire en sorte que le vivre ensemble soit peut-être simplifié, en tout cas qu'il y ait un petit peu plus d'interconnaissance au niveau local. Voilà. Donc je vous ai remis les informations concernant le projet et donc l'adresse du site web sur lequel vous retrouvez la version numérique de l'encyclopédie et dans laquelle vous pouvez donc consulter les 400 témoignages qu'on a collectés. Merci.
Je vais prendre quelques minutes avant qu'un débat plus large ne commence, un débat commun, pour dire qu'effectivement, il faut, pour parler de l'expérience migratoire ou de l'expérience de l'exil, une somme, et que c'est précisément ce que vous allez faire. Mais est-ce qu'Antoine, vous pouvez préciser comment se font les entrées, comment le classement a été fait par le nom des personnes ou pas, et d'autre part, comment elles ont été rencontrées ? Quel a été le cadre des rencontres ? Parce qu'on voit bien que c'est un travail collectif élaboré, mais elles étaient déjà dans les associations, ou bien c'est un travail en plus à l'extérieur ?
Alors pour le classement, on a choisi de classer les témoignages dans l'ordre alphabétique des prénoms des personnes. Donc ça, évidemment, c'est valable pour la version papier. Pour la version numérique, c'est un petit peu différent puisque du coup, on peut naviguer différemment dans la base de données. Ce choix, il a été fait par le groupe de réflexion dont je parlais tout à l'heure. C'est une décision collective, c'est-à-dire qu'on a fait plein de scénarios. Il y a eu la possibilité de classer par ville, par exemple. On aurait pu choisir d'avoir une approche par ville ou une approche chronologique. Quelqu'un proposait même de classer de manière aléatoire, c'est-à-dire de tirer au sort. Voilà, on a tout essayé. Et puis finalement, le groupe a décidé majoritairement de classer par prénom, en disant que ça enlevait aussi le côté administratif où on a l'habitude d'avoir des classements par nom de famille. Là, il y a un classement par prénom où on va voir alors Maria, qui est un prénom courant, on va retrouver plusieurs Maria à suivre comme ça, et ça mêle les histoires, ça mêle les parcours. C'est quelque chose d'intéressant. Sur la deuxième partie de la question, la question de la rencontre, oui. Ça a été différent dans chacune des 8 villes, puisque c'est en fonction du partenaire qui était implanté sur place. Nous, à la Joie Tortue, on a un maillage associatif assez fort dans le quartier dans lequel on travaille à l'échelle de la ville. C'est beaucoup passé par les associations, soit les associations d'aide aux migrants, soit les associations implantées dans les quartiers, soit les associations communautaires. Dans d'autres villes, ça s'est fait de manière un peu plus, comment dire, enfin c'était plus lié au réseau personnel des personnes qui étaient en charge des collègues. Donc il n'y a pas de règles, en tout cas on ne s'est pas fixé de règles, et ça a été un petit peu en fonction des réalités locales et des personnes qui portaient le projet.
Alors moi je suis très sensible à l'idée d'accueillir en tout cas des témoignages ou des lettres dans les langues, puisque c'est une partie, on parle beaucoup d'hospitalité et on parle beaucoup aussi d'inhospitalité, ça se pense ensemble, mais le fait d'accueillir dans les langues, qui ne sont pas seulement les langues de l'encyclopédie elle-même. Est-ce que vous pouvez en dire encore quelques mots de la diversité de ces langues ?
C'est pareil, c'est une décision qui a été prise collectivement, mais on trouvait ça important de laisser le choix à chaque personne de la langue dans laquelle elle allait s'exprimer. Donc il n'y a pas une injonction à écrire dans sa langue maternelle, mais une possibilité en tout cas. Alors c'est un choix économique aussi à un moment donné, puisque c'est aussi un choix de traduction après qu'un certain coût, mais ça nous paraissait indispensable. On est assez attaché au droit culturel. Alors avant que ça rentre dans la loi NOTRe, on était déjà assez attaché à ce référentiel là mais cette idée aussi, voilà, de laisser la liberté vraiment à chacun de choisir son référent culturel et notamment la langue dans laquelle il souhaite s'exprimer. Et voilà, une lettre comme celle-ci, reproduite dans l'encyclopédie, c'est quelque chose qui est d'une sensibilité assez folle. C'est quelqu'un qui a pris du temps aussi pour livrer son témoignage, qui a vraiment porté une attention très particulière. Et alors je ne sais pas si c'est personnel, mais en tant que lecteur, moi, je suis touché de voir qu'il y a eu cette attention-là qui a été portée. Et ça donne envie de s'intéresser un petit peu plus au parcours de la personne.
Ça ajoute du sensible au sensible. Enfin, ça ajoute un autre élément de l'expérience. Ah, ouais, tout à fait. Donc... Et à chaque fois, c'est retraduit dans la langue du pays ou de la ville, c'est ça ? Ou bien c'est retraduit dans les quatre langues ?
Alors, c'est effectivement retraduit dans les quatre langues, c'est-à-dire que les 400 témoignages sont tous traduits en français, en espagnol, en portugais et en anglais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de base de données et qu'il y avait cette volonté vraiment que ce soit transmis de la manière la plus large possible. Voilà, le choix de le traduire dans ces quatre langues, c'était cette idée-là, qui peut servir du coup de support pédagogique pour des travaux de langue. Je dis ça parce qu'on est en train d'imaginer avec des lycées, des profs d'espagnol par exemple, que les lettres soient lues en espagnol, en tout cas leur traduction en espagnol, et que les élèves puissent faire une réponse à ça ou faire une étude documentaire à partir des lettres.
Alors, dernière question peut-être, si j'ai encore un tout petit peu de temps, c'est quels ont été les contacts entre les villes ? Est-ce qu'il y a eu, entre les pays et les villes, est-ce qu'il y a eu des réunions générales ? Est-ce qu'il y a eu des... Comment se sont passés les échanges d'expérience, de production ?
Alors, il y a eu des échanges, effectivement, où au démarrage du projet, on a organisé ce qu'on appelle un séminaire fondateur dans notre jargon, qui s'est tenu au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'était 2 jours de travail où les équipes des 8 villes se sont réunies pour qu'on leur transmette les méthodes qu'on avait définies, puisqu'on est quand même sur un livre, il y a donc une direction éditoriale, il y a des choix qui ont été faits au départ, il s'agissait bien de transmettre cette direction éditoriale-là à l'équipe, et puis discuter du fond du projet aussi, voir s'il y avait des zones de tension, des zones d'incompréhension. Donc ça a été au démarrage du projet en 2015. Il y a des réunions intermédiaires au niveau de chaque pays. Je sais que l'on s'est réuni avec les équipes de Brest et de Nantes à Rennes pour pouvoir échanger sur comment s'était passée la phase de collecte, par exemple. Il y a eu des moments difficiles, il y a des choses qui ont bien fonctionné. Donc vraiment dans cette modalité d'échange de bonnes pratiques, d'échange d'expérience. Et puis au mois de juin, en 2017, là, on se retrouve tous à Gibraltar, donc des représentants des 8 villes avec des élus. On a enfin réussi à mobiliser un maximum d'élus, où là, on va être sur un temps plutôt de bilan et de perspective. Donc le bilan pour revenir sur l'expérience et voir ce qu'on peut en tirer voilà, en termes de bonnes pratiques. Et puis voir si on continue à travailler ensemble, dans quelle direction, à quelle échelle. Mais bon, il y a des choses qui se préparent.
Dans d'autres pays encore.
On a ouvert beaucoup de portes avec ce projet-là.
Merci. On va ouvrir le débat peut-être à la fin, c'est ça ? Oui. Est-ce que Pierre, vous pouvez nous rejoindre ? On va faire un débat collectif une fois que les 3 présentations auront été faites, plus la 4e, donc en l'absence de sa co-réalisatrice, on ouvrira les débats. Alors, le projet « Enterre-moi mon amour ».
Oui. Bonjour. Je vais donc vous parler de ce projet qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est un jeu vidéo pour mobile, téléphone, développé par The Pixel Hunt et Figs, et qui est du coup une histoire de migration, mais aussi une histoire d'amour. Puisque c'est un jeu vidéo qui va nous raconter l'histoire de Nour, qui est une jeune Syrienne qui quitte la Syrie. Avec l'espoir de trouver refuge en Europe, et de son mari, Majd, qui reste à Homs, s'occuper de sa famille et qui espère la rejoindre peut-être plus tard ou du coup qu'elle puisse revenir. J'ai une petite vidéo d'introduction qui date un peu peut-être, mais ça va peut-être vous donner un peu une image du jeu. Bon, voilà, le trailer est un peu déprimant, mais bon, c'est un trailer qui a été réalisé il y a quelques temps déjà. Il faudrait qu'on en refasse un nouveau. Bon, le jeu n'a pas vocation à être forcément aussi déprimante que ça, même si c'est évidemment ça qui va traiter de sujets d'actualité lourds. Et comme bah, du coup vous avez dû le comprendre, c'est un jeu qui va se jouer. C'est une discussion ce jeu, donc c'est un jeu qui va se jouer sur une messagerie de type WhatsApp. Enfin, simuler l'interface d'une messagerie de type WhatsApp. Et du coup, l'idée étant de créer un lien très intime, on va dire, entre Majd et Nour. On parle quand même de conversation d'un couple. Donc réussir à créer de l'intime, créer de l'humain. Et puis, bon, évidemment, on parle d'un sujet d'actualité. Donc, il y a quand même une sorte de vocation politique derrière qui va être, disons, d'humaniser les réfugiés, réussir à réhumaniser ces réfugiés, alors que du coup, dans les médias, on a tendance à déshumaniser de plus en plus, même sans forcément un mauvais esprit, on va dire, mais c'est des choses par ce qu'on disait tout à l'heure, par la répétition. Et c'est une histoire, alors non pas vraie, puisque c'est une fiction, mais fiction évidemment inspirée de nombreux faits réels, vraies histoires collées bout à bout. On travaille beaucoup du coup avec Dana, qui est une Syrienne en Allemagne, qui nous sert un peu de conseiller. On s'est beaucoup inspiré de son histoire. On a une petite vidéo où elle se présente.
I'm 25 years old. I came from Syria and now I live in Germany. My two sisters and my brother are here too, but unfortunately my mother's still in Damascus with my grandmother. I left Syria because of the war and the very bad conditions we lived there, and because of the problems with the Syrian regime. The worst part of the journey was the boat and finding a smuggler and dealing with the smugglers in general. And the boat was too hard to go on the boat with a lot of people. And the weather was too cold when we came. The fun part of the journey was so important. I didn't choose mine, but my brother-in-law's. He bought a Vodafone SIM card from Turkey, and we kept in touch with my family. We made a group on WhatsApp with my family and friends, and we tell them every step we did. It was good, so they will be relieved when they know that we crossed this place, or we did this, or we did that. When they first told me about the game, Bury Me My Love, I was so excited. Especially because it's the name of the game, it's a sentence my mother told me before I go. And when I played it, it touched my feelings and I felt a little bit sad. It reminded me of my trip. And I let my sister also play it, and she was so emotional and she didn't want it to end, and she wanted to stay with her till the end. And I think the people will not fully understand what we've been through, but it's one step for them to know what we did to get a better life. In the end, I'm happily living in Germany. I have a lot of friends, and I have my sisters and my brother in here, and the people are helping a lot, and they treat me so nice. I already started to learn the language, and I will not be fully happy till I know that all my family and all my friends are living in a safe place and living happy as I am, especially my mother.
Donc voilà, donc c'était Dana qui joue un peu le rôle de conseillère en fait, qui on va poser, parce que pour ce qui est de la documentation, évidemment, bon, on se sert de travail journalistique divers beaucoup, mais pour les plus petites choses, les petits détails, tout ça, c'est justement grâce à Dana qu'on peut réussir à recréer un peu ce sentiment de réel et d'intimité. Et donc, ben, on va dire le gameplay de ce jeu, puisque du coup, comme je disais, c'est quand même un jeu, c'est que fréquemment, on va avoir l'occasion de choisir peut-être les réponses qu'on va envoyer à Nour et influer un peu sur son voyage, ce qui va permettre. Il y a une arborescence de routes migratoires, donc le jeu permet de découvrir un petit peu toutes les routes, les routes qui existent en partance de Syrie, on va dire. Sachant qu'on a placé le jeu se déroule, enfin, l'histoire se déroulerait en mars 2016, donc c'est un moment où en plus il y a beaucoup de bouleversements, la fermeture des Balkans notamment. Donc selon comment on se comporte dans le jeu, on va pouvoir découvrir différentes choses, différents chemins et différents lieux à visiter. Et évidemment, c'est pas non plus un livre dont vous êtes le héros, c'est pas on choisit ce qu'on fait, donc on discute avec quelqu'un, avec une personne. Et donc Nour n'est pas du tout obligé de suivre les conseils qu'on lui donne, on peut s'engueuler, on peut se réconcilier, donc voilà, c'est vraiment une histoire d'amour qui se fait, donc les variables c'est ça, donc on a quand même des variables sur la confiance que Nour peut nous porter, l'amour qu'elle peut nous porter, ce genre de choses. Et donc différentes fins aussi. Bon, là c'est juste un document de travail, c'est pour voir à quel point j'utilise pas des outils appropriés pour bosser. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu l'arborescence. Donc voilà, des différentes villes. Là, c'est un document qui date un peu déjà. Et oui, et donc l'idée quand même d'adopter cette interface mobile, c'est bah, d'une part parce que pour évoquer ce côté-là, ce que disait bah, du coup Dana dans la vidéo, l'importance que joue le smartphone en fait au moment des migrations. Pour rester en contact, mais pour se tenir au courant, pour trouver des passeurs, ce genre de choses. Et aussi parce que, bah, du point de vue là, joueur, c'était l'envie de reproduire quelque chose de très intuitif, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo de sa vie, a priori, s'il a déjà utilisé un smartphone, il a déjà utilisé une messagerie, ça devrait être facile à prendre en main. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un jeu vidéo qui puisse toucher le plus large public possible. Donc voilà, là c'est des écrans, donc on peut envoyer des selfies aussi, il y a des smileys, on peut suivre sur la petite carte l'itinéraire. Voilà, c'est à peu près ce que je disais. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ah, je ne me rappelle plus. Ah si, voilà, bon, là c'est pour pouvoir prendre, du coup c'est une petite option qui permet de prendre des selfies avec son téléphone, avec un petit effet. Et donc on travaille aussi avec Coconaut qui est du coup le graphiste du projet et qui en fait enrichit ce qui serait sinon que du texte par du coup bah, les selfies ou les images que va envoyer Nour. Et donc voilà, là, on a une petite collection, donc ici en Turquie, je sais plus si c'est Istanbul ou Izmir, avant d'embarquer. Ok, ça c'est un. Bon, je vais pas vous faire le roman photo du jeu, mais je vais faire passer un petit peu rapidement. Donc voilà, on a Nour à gauche, Majd à droite. Et donc voilà, et donc ce jeu-là, il est réalisé, comme je vous l'ai dit, par Pixelent et Fix. Moi, j'en suis l'auteur, c'est moi qui écris. Et donc, on a le soutien du CNC et de Arte. Donc, j'en profite pour remercier. Donc, il y a un point d'interrogation parce que les slides, ils sont un peu vieux, mais c'est confirmé. Et il devrait sortir en juin ou juillet sur, du coup, mobile Android et iOS. Voilà.
Merci Pierre. Alors, on a envie de poser plein de questions autour de ce projet. D'abord, je suis d'accord avec vous. Les gens qui font ce voyage sont des héros. Je crois qu'il faut le rappeler. Il y a une forme de prendre son destin en main, de faire ce voyage. C'est quelque chose d'héroïque dans les contextes de guerre et vraiment de guerre. Alors, il y a plein de choses. J'imagine qu'il y a vraiment deux aspects. La conception de ce jeu elle-même, hein, sur laquelle vous nous allez peut-être préciser encore des choses. Et puis, la volonté d'incarner des destins individuels, ce qui rejoint le précédent projet. Mais j'aimerais bien vous poser une question sur la notion même de jeu. C'est un jeu. Et en même temps, vous avez mentionné une inscription politique. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, le joueur va rencontrer une responsabilité. Il ne va pas réussir à se mettre à la place d'eux, parce que c'est, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Enfin, c'est discutable. En tout cas, il va essayer de se mettre à la place. Mais il peut y avoir des mauvais choix. Il peut y avoir des issues, je ne sais pas si elles sont fatales ou en tout cas elles sont très douloureuses.
Il y a des mauvaises fins, oui.
Oui, il y a des mauvaises fins. Donc il y a quand même une notion de... Au-delà du jeu, j'imagine que celui qui joue va se trouver, enfin, se placer devant différentes responsabilités. Alors comment, comment vous l'avez conçu, en fait?
Bon, bah déjà pour le début de la question, pour la question du jeu, moi en effet, voilà, je dis bien que c'est un jeu vidéo, limite j'insiste sur ce point, parce que bon, ça correspond en effet pas du tout avec l'image qu'on va avoir, que la plupart des gens vont avoir du jeu vidéo, mais moi je suis convaincu que jeu vidéo ça reste du coup un médium comme un autre évidemment, et qui peut permettre de raconter ces histoires-là aussi, de parler de sujets politiques et... De façon même fine, j'espère. Et pour ce qui est du coup du joueur, bon, alors on n'a pas encore eu l'occasion de faire vraiment des tests avec des joueurs, bêta-tests, tester le jeu avant, avec le jeu qui se déroule jusqu'au bout. Donc on est je trouve plus le mot, un peu apprenti sorcier peut-être là-dessus, quoi. On va essayer, mais on se base quand même sur un jeu qui existait déjà, sur deux choses en fait. Donc il y a un jeu qui est déjà sorti qui s'appelle Lifeline, et qui est un jeu où on suit en effet l'histoire aussi de quelqu'un sur mobile avec, en mode messagerie sur plusieurs jours, parce que j'ai peut-être pas précisé, je crois pas l'avoir fait. Ces conversations qu'on a du coup avec Nour, c'est pas en temps réel, mais presque. C'est-à-dire que si Nour, elle dit bon ben je prends le train, je te laisse, je te rappelle quand j'arrive à la gare, c'est vraiment quelques heures plus tard qu'on va avoir une notification sur le téléphone. Elle dit bon ben c'est bon, je suis arrivé. Donc c'est un jeu qui se joue sur la longueur, quoi. Vraiment comme une conversation avec quelqu'un.
En temps réel du déplacement.
Voilà, bon, c'est pas vraiment en temps réel, mais en tout cas ça l'accélère clairement, parce que. C'est pas, on va pas, une migration, ça dure des mois en fait. Là, c'est quelque chose qui va se jouer peut-être en une semaine. Donc ça, c'est inspiré d'un jeu qui existait, qui a eu beaucoup de succès, mais qui était dans le domaine de la science-fiction. Et du coup, l'autre inspiration, c'était un article de Lucie Soulier sur lemonde.fr, où elle avait traduit. C'était quoi le titre ? Dans le téléphone de migrants syriens ou de réfugiés syriens, j'ai plus le titre, où du coup c'était la reproduction d'une conversation WhatsApp de quelqu'un qui avait traversé le bout de Méditerranée, qui est arrivé jusqu'en Allemagne depuis la Syrie. Et on avait trouvé c'est pas moi, c'est Florent, hein, c'est lui le chef de projet. C'était assez fou de voir comment les personnages qui sont donc des vraies personnes, mais donc comment lire les conversations sur WhatsApp de gens, les humanise et donne une image complètement différente de l'image qu'on va avoir des réfugiés habituellement. Et donc bon, l'idée c'était de combiner les deux choses. Et donc voilà, vraiment pour répondre à la question, je sais pas encore comment ça va être reçu, j'espère positivement en tout cas. Et
ce qui est très clair en tout cas, c'est que le smartphone est un élément central, et c'est un élément central des parcours migratoires. On peut d'ailleurs dire sans aller très loin que sans les smartphones, les drames, les morts, pour le dire clairement, seraient multipliés. C'est les applications smartphones qui permettent de géolocaliser des bateaux à la dérive, qui permettent éventuellement d'ouvrir la porte de camions frigorifiques parce que les camions empruntés partent dans des mauvaises directions. C'est évidemment le smartphone qui permet de communiquer. C'est vrai que si on ne peut pas se mettre tout à fait à la place, c'est quand même aussi un objet du monde hyper contemporain. Donc c'est vraiment un objet qui est à l'interface. Alors pourquoi avoir choisi WhatsApp? On imagine parce que c'est celle qui est le plus employée.
Bon, c'est quand même une interface qui a été faite sur mesure. Donc c'est pas particulièrement, je sais pas si je peux revenir. Donc c'est pas forcément WhatsApp, mais oui voilà, là on voit à peu près. Mais bon, oui, ça ressemble aussi à n'importe quelle autre. En fait, elles se ressemblent toutes, ces applications. Mais en tout cas, c'était comme c'était aussi inspiré, comme je l'ai dit, de cet article du Monde qui était là, en l'occurrence, sur WhatsApp. Ça a sans doute beaucoup joué. Et c'est ce qui est utilisé, en fait, énormément, WhatsApp, parce qu'on a pu apprendre.
Et combien de temps ça met, la création d'un jeu de cette nature? C'est un projet qui dure quoi?
Le projet, il a été commencé en septembre, je dirais. Je crois que c'est ça, septembre. Et donc, du coup, il devrait aboutir en juin ou juillet. Et moi qui étais sur l'écriture, voilà, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a pris, oui, de novembre à maintenant, à mars, on va dire, de façon assez intense, quoi. Là, ça commence, ça y est, je commence à arriver au bout.
Merci. Peut-être qu'on va ouvrir le débat après et peut-être appeler Marion Crowe, auteur donc du documentaire sonore « Celui qui n'a pas de terre n'a le droit qu'à une mer agitée ». Merci Pierre.
Bonsoir. On parlait de WhatsApp et des moyens de communication comme ça. Le documentaire que je vais vous présenter, il s'est beaucoup appuyé sur ces technologies-là, même si dans sa forme, il est très simple. C'est un documentaire sonore qui s'appuie pas spécialement sur une forme sur le web, même si on peut l'écouter en ligne. Mais en tout cas, Internet et les outils de communication comme ça nous ont beaucoup servi. Enfin, disons que les protagonistes qui apparaissent dans le documentaire, donc ils sont trois, ils sont palestiniens issus du camp de Yarmouk en Syrie. C'est un camp qui a été créé dans les années 50 suite à l'exode palestinien et qui est donc au sud de Damas. Et les trois protagonistes qu'on a suivis, eux, ils sont donc de la troisième génération. C'est leurs grands-parents qui sont arrivés là-bas. Et en 2012-2013, le camp a été assiégé et bombardé. Et donc, il y a 90% de la population qui est décédée, soit s'est enfuie. Et donc, les trois personnes qu'on a suivies sont trois jeunes hommes qui sont partis d'Yarmouk à plusieurs étapes du siège et qui était donc au moment où on a réalisé le documentaire entre 2014 et 2016. On est resté en contact avec eux justement via ces outils. Donc il y avait autant des moments où on les voyait en chair et en os et on pouvait enregistrer avec eux, autant on enregistrait aussi le son des conversations qu'on pouvait avoir avec eux sur Skype ou autre, tous les messages qu'ils nous laissaient, etc. Par ailleurs, la technologie web, eux, c'était pour eux, c'était quelque chose qui leur servait à communiquer sur leur création. Ils sont tous les trois artistes ou journalistes ou cinéastes. Enfin, en tout cas, ils sont tous les trois dans une dynamique de témoigner et de transmettre et d'autoréflexion. Et du coup, en parallèle du documentaire que nous on réalisait avec eux, ils avaient une activité assez fournie sur le réseau. Voilà, je sais pas, j'avais noté des jolies phrases, mais ils sont membres du collectif Réaction. Voilà, c'est un collectif qui s'appelle Réaction qui a été créé à Yarmouk. Et donc, c'est un collectif qui s'appuie sur Internet, en fait, pour travailler à distance, parce que forcément, ce collectif a été créé à Yarmouk et malheureusement, tous les membres sont plutôt dispersés pour ceux qui sont encore vivants. Et du coup, Internet leur permet autant de se retrouver à distance que de diffuser leur travail. Et du coup, Internet, c'est vraiment une sorte de passe-muraille. Et là, l'extrait que je vais vous faire écouter, donc c'est un extrait de 6 minutes. Le documentaire entier fait 50 minutes. J'ai choisi cet extrait-là parce que je l'aime beaucoup. Je ne peux pas vraiment donner d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est un des protagonistes qui s'appelle Raed, qui est le plus jeune et qui est, lui, toujours à un stade très peu avancé de son exil puisqu'il est encore à Beyrouth. Ça fait 2 ans qu'il y est. Et à l'époque, on l'a interrogé, bah, c'était il y a 2 ans, il était arrivé 2-3 mois plus tôt à Beyrouth. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bah, je vais vous faire écouter ça. Ah oui, je voulais projeter pendant le, à la fin de l'extrait qui dure 6 minutes, il y a un rap déclamé par Raed, et donc je vais vous projeter la traduction de ce rap, la traduction en français.
Je m'appelle Raed. J'ai 20 ans. Je suis palestinien. On dit de moi que je suis palestinien syrien, mais je préfère le mot palestinien tout court. Pas parce que je suis raciste ou que je sois dégoûté de la Syrie. Mais parce que je ne veux pas les laisser faire ce qu'ils veulent pour me faire oublier ma terre. Donc je suis palestinien et j'habitais dans le camp de Yarmouk, à Damas. Quand il y a eu les premiers bombardements des avions MiG et que la majorité des habitants du camp sont partis, moi, je suis resté. Les 3 premiers mois, on pouvait entrer et sortir. Mais il y avait quand même un checkpoint géré par le régime syrien. Puis, le nombre d'habitants a diminué. Il restait environ 3000 familles sur 1,5 million d'habitants au départ. Après avril 2012, non, 2013, Yarmouk a été fermé. C'était le début du siège. Il y a eu plusieurs périodes. Les 3 premiers mois, on a vécu sur nos réserves personnelles. Après, la période de la femme morte a commencé. Certains l'ont appelé famine, mais ce n'était pas une famine. C'était un affamement. Ça nous a été imposé et ça a duré 6 mois. Pendant ces 8 ou 9 mois, près de la moitié du camp de Yarmouk a été détruite parce qu'on était au milieu des affrontements armés. Pourquoi on n'est pas parti de Yarmouk ? C'est peut-être difficile à comprendre. Certaines personnes disent que c'est du patriotisme, du n'importe quoi. Mais c'était fondé sur une idée. Quand on a quitté la Palestine, ou plutôt quand mon grand-père est parti de Palestine, il a laissé sa terre, sa maison à Safad. Je le maudis d'avoir fait ça. Il n'avait pas le droit de faire ça. C'est une question de résistance. En gros, quand l'exode de Yarmouk a commencé, on savait bien que c'était encore une opération d'exil des Palestiniens. Donc pourquoi je résisterais pas à ça ? Je sentais que j'avais un devoir à remplir de quelque façon que ce soit. Moi, je fais du rap, du spoken word. Donc, j'ai décidé, à un moment donné, que je devais continuer à transmettre aux gens de l'information sur ce qui se passait à l'intérieur du camp assiégé avec mon art.
شهيق زفير كل روتين واحد روتين بيشبه كلامنا لما نقول البلاد راحت الضغط عالي الشوب بيولد التعتير براسي خيمة بتهدني كل ما أقول بكير بكير على الهرب أو بكير على الرحيل أوقات بستغرب ليش مستعجل إسرائيل جف الهوى وهالمدينة كمان ناشفة زي الباقي هي لأني لاجئ هي خايفة
شبح عاري لهيك أحلامي بسيطة زي إني أحلم أكون إنسان عجيب بسيطة حالتي تهريب زي دخول أي بلد ممنوع دخول أي مكان نوع فصيل انقرض حكي بليغ مش مبالغ ابدا فيه بشوفوني اذا بكون بعمل للسياحة تشويه كلامي سطحي لانه مش هون القضية بس كلياتنا منحب نلعب بدور الضحية حلمي رمادي لهيك كل احلامي بتهدني طافر لحد صرت احلم بين طبقة زواتي تحبني فكرة حقيرة انا كل فكري سافل هيك بشوفوا بالاخبار اللاجئ خبر عاجل سكروا البيوت نزلوا الامن استنفار لاجئ هرب من الموت جاي يعمل استعمار فكرة قريبة والكلام صدقا صاير في واحدة بتقولي ليش ببلادنا بعدك داير واحد بحكيني بصيغة إنسانية عن اللي صار من الضروري يفرضوا على مخيم أحسار
غريب قديش ممكن إني أخوف وأنا أبسط من شيخ صوفي بمقارة متصوف فاخترت أوروبا كبلاد ممكن تحويني طريقي لهناك تهريب بصحراء عربية بتكويني بيجيني البحر بعدها هيك رحلتي للخارج من لا بر له لا بحر له إلا هايج
Je finirai par trouver la mer. Celui qui n'a pas de terre n'a le droit qu'à une mer agitée.
Voilà pour cet extrait.
Ah, il y a la suite de la playlist, peut-être. Faut que je ferme une thune. Bon, on verra. Voilà. Je voulais parler d'autre chose. Je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps, mais...
On va ouvrir des questions générales.
Après.
Okay. Moi, je... À entendre... Alors, je me suis dit, comment le qualifier ? C'est un témoignage. On a l'impression que c'est bien plus que ça. Ce sont des actes de résistance. C'est des façons de raconter, de faire entendre littéralement ce qui se passe. Si j'ai bien compris, vous avez co-réalisé en fait ce documentaire sonore. Voilà. Et pour quels usages possibles, quels usages imaginez-vous pour diffuser, pour faire réagir peut-être autour de cette création ?
Je comprends pas bien le sens du mot usage.
Sans du mot usage, enfin, vous le présentez aujourd'hui. Est-ce que ça passe dans des émissions de radio ? Est-ce que comment vous le montrez ? Enfin,
ça passe à la radio.
Laissez entendre.
Ouais. Ça passe à la radio. Ça passe dans des festivals comme aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça ? Ben, on voulait parler surtout de la position des Palestiniens dans. On voulait parler de la migration forcée et on a rencontré ces Palestiniens qui sont enfin au Liban parce qu'on était basé à Beyrouth au départ du projet et à Beyrouth il y a énormément de Palestiniens et à cette époque-là il y avait justement une recrudescence de d'arrivants syriens et palestiniens et on avait rencontrer beaucoup d'entre eux en fait et on a eu envie de enfin c'est eux qui ont voulu se raconter en fait c'est moi la première fois qu'on me disait merci à la fin d'une interview c'est pendant ce projet là quoi c'est enfin quelque part je sais pas vraiment si je peux dire que ils l'ont fait avec nous mais bon il y a quelque chose en fait où comme vous dites c'est plus qu'un témoignage où ils étaient dans une avec nous en tout cas dans une attitude de participative. En fait.
Oui, on a l'impression que c'est presque un don. Enfin, il y a des choses qui sont données, vraiment données, offertes d'un témoignage d'un double ou triple exil, hein, puisque la Nakba est redoublée par la guerre en Syrie, etc.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons vous prier de vous rassembler.
C'était ça.
Non, ce n'est pas une évacuation. Vous vouliez également
Et du coup, ouais, s'il me reste un peu de temps, je voulais parler d'une émission de radio, parce que voilà, je voulais parler de radio ce soir, c'est comme ça. D'une émission de radio qui a été créée là en novembre 2016 suite à l'évacuation définitive du camp de l'avenue de Flandre à Stalingrad. Et du coup, on a créé une émission qui s'appelle Stalingrad Connection, qui passe sur Fréquence Paris Pluriel le lundi et le jeudi à 13h30. Et voilà, on a souhaité créer une émission qui soit en plusieurs langues, donc en français, anglais, arabe et dari. Et on voulait que ce soit, voilà, que ce soit pas un regard sur les migrants pour les auditeurs francophones, mais que ce soit un média d'information collaboratif, où l'information elle-même soit générée par les premiers concernés, quoi, que ce soit les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants, autant que les militants, les personnes qui sont sur le terrain qui portent de l'aide. Donc j'ai choisi un extrait de 4 minutes qui a été tourné là très très récemment, qui est passé dans l'émission d'hier, et il se trouve qu'elle résonne pas mal avec le rap qu'on vient d'entendre. Et bon, c'est très brut, hein, mais voilà, je vous la fais écouter telle qu'elle est. Donc c'est un jeune homme qui se fait appeler la voix sans papier, qui est poète.
Ils se font des armes pour leur défense, des armes à feu aux bombes explosives, du nucléaire aux armes bactériennes. Ils détruisent le monde, mais se disent contre la guerre. Ils polluent la planète entière et se nomment donneurs de leçons sur le changement climatique. Ils larguent leurs missiles en pleine mer. Ils privent tout un continent à s'émanciper. Ils sont curieux et aussi cupides. Ils continuent de jouer quand même toujours aux humanitaires. Qui sont-ils, ces hommes qui se disent de race supérieure? Qui sont ces hommes qui tortionnent des peuples arabes, colonisateurs marginalisant des peuples africains, commerçants et fabricants des armes lourdes, instaurateurs associés et acclameurs des dictateurs, calomniateurs et diffamateurs des exilés, imposteurs de la République, offenseurs, oppresseurs, assassins de personnes pitoyables, créateurs du terrorisme, bafoueurs des droits de l'homme, anarchistes internationaux, triompheurs de notre territoire, envahisseurs et pilleurs de ressources étrangères, destructeurs et jongleurs de l'avenir humain, inventeurs d'amalgames, patrons de l'espace terrestre jusqu'à la galaxie. Ils ont tout tenté et réussi au pire risque sur cette terre qui nous reste un passe à nous. Ils se croient supérieurs aux autres. Ils sont allés jusqu'à l'orbite, mais n'ont pas trouvé qui ou quoi coloniser, torsionner, piller et ramener chez eux. Et maintenant, après avoir tout follement rasé, ils se mettent en défi de pouvoir créer encore plus que tout sur cette terre, pour que la couronne ne leur tombe pas de la tête. Pour la garder, ils feront couler encore du sang et du sang pour longtemps. Ils seront prêts à désamorcer une folie qui un jour nous conduira au péril de toute espèce vivant sur cette planète. Après nous avoir colonisés, pillés, écrabouillés, tués, nous voilà devenus mendiants chez vous. Pour nous durcir plus la vie, le mépris nous ira bien. Les Blancs ont traversé des mers et des montagnes pour s'accaparer des Noirs. Les Noirs ont subi et en ont marre, ont fui leur terre, traversé le désert et la mer pour revendiquer ne serait-ce que les miettes qui tombent de leur table. Mais non, l'Africain n'est qu'un misérable pantin qui sans papier ira même au fond des trous quant à vous pour se trouver du travail. L'Arabe est un méchant terroriste qui a abandonné ses chameaux, sans doute cherche à mener un plan d'attaque. Et même s'il est un imam, c'est ainsi que vous nous considérez. Le danger existe pour vous là où il ne l'est pas. Jusqu'au jour où un simple fou tue un innocent au nom de l'islam, c'est alors que votre esprit satisfait le battement de peur qui palpitait en vous. La peur vous saisit. L'étranger est un méchant terroriste. Hélas, c'est reparti. La colère se répand dans tous les médias. Les musulmans sont diffamés, sont pointés du doigt. En voilà un. C'est sûrement un terroriste. Même s'il ne l'est pas, il l'est forcément. Il prie dans la mosquée chaque jour et il ne s'appelle pas Pierre, ni Paul ou Jacques. Il parle notre langue avec un accent grave. Vous lui ôtez son visage et le mettez un masque qui vous effraie vous-même. La haine se propage, la division s'installe, les mensonges se vantent avec un succès, et les politiques en font un chèque d'or pour acheter qui votait pour eux. Ainsi, le candidat le plus raciste appuie sur vos peurs et pour vous rassurer, il vous promet un nettoyage comme si les migrants étaient là par hasard. Vous y croyez et mordez jusqu'à croquer la pâte, alors que c'est la division que vous souhaitiez et une haine qui les permettra de vous cibler, sans distinction cette fois. Tant que la Wi-Fi fonctionne, l'électricité et les appareils fonctionnent, massacrez-les jusqu'aux plus jeunes et nous voterons pour la honte s'il le faut. Tant que vous en êtes capable de les renvoyer dans leur misère, ces morpions qui souillent nos rues, ils sont les plus puissants du monde, mais par l'ambition de rendre la perfection totale à leur peuple, ils finissent par mettre leurs propres citoyens en danger, même dans leurs rues, parfois se sentent persécutés. Voilà.
Merci pour avoir partagé ce...
Voilà, c'était un extrait de l'émission d'hier, de Stalingrad Connection. C'est très brut, hein, voilà. J'avais envie de choisir un extrait spontanément et j'ai pris quelque chose qui résonnait avec ce que je montrais et qui était tout frais, quoi. Voilà.
Merci. L'émission offre un espace d'expression à ceux qui veulent, ou bien comment ça se passe?
Complètement.
Chacun vient proposer un certain nombre de choses et...
Non, on est, on a une heure par semaine, enfin deux fois une demi-heure. Il y a des fois où on a du mal à les remplir parce que c'est du travail et qu'on n'est pas souvent. Enfin, c'est difficile de se mobiliser comme ça. Mais en tout cas, c'est par exemple la voix sans papier. C'était un moment où on tournait un plateau. Dans les locaux du BAM, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Et il était là et il a dit « moi j'ai des poèmes, puis j'ai des choses à dire » et on a pris une heure avec lui. Donc il y a des émissions qui se construisent aussi comme ça par hasard. Et puis il y a des gens qui nous contactent via Facebook ou qui nous entendent à la radio ou sur Internet et qui nous proposent des sujets. Et puis nous, après, voilà, on essaye d'être... entre-temps, quand... Quand nous, je dis nous, le noyau un peu fondateur, qui essayons de maintenir tout ça, entre les émissions qui nous parviennent, on en produit nous en essayant d'un peu couvrir l'actualité, on peut dire, enfin en tout cas ce qui se passe au quotidien et ce qui se passe la fluctuation des politiques, dans le... Voilà, tout ça. On essaye de rester... on a aussi un créneau d'information d'un quart d'heure où on dit en quatre langues où trouver un endroit au chaud, où se doucher, où s'habiller, où manger, les permanences juridiques. Et ça, c'est à peu près systématiquement diffusé. Voilà. C'est le lundi et le jeudi à 13h30, 106.3.
Merci, merci beaucoup. En fait, je vais rappeler Antoine et Pierre parce qu'on va ouvrir le débat commun. Jérémy me dit qu'il reste, que le temps passe vite, hein, mais c'est vrai parce qu'il passe d'autant plus vite qu'on voit des choses intéressantes qui font réfléchir, qui sont tous liés quand même avec une très grande diversité de supports à des formes d'expression, de représentation et qui posent de ce fait de nombreux de questions. Est-ce que vous avez envie de réagir dans un premier temps, les uns par rapport aux autres? Non? Vous posez des questions? Bon. Est-ce que dans la salle, y a-t-il des questions? Enfin, moi, pour ma part, je suis vraiment fascinée par le fait que en vous entendant, il y a vraiment une très grande diversité. Il y a des supports imprimés, il y a des formes épistolaires. La forme est aussi très distincte. Il y a des formes épistolaires, il y a des portraits, il y a donc des lettres avec, dessus, de nouvelles créations. Enfin, il y a vraiment une superposition de supports. Il y a un support jeu. Et tout ça, en prise directe ou différée avec le réel, n'arrive pas d'une certaine façon à épuiser le sujet. Il y a, d'autres besoins encore, d'autres formes sans doute à inventer. C'est vraiment frappant qu'autour de la question à la fois de l'expérience de la migration et de l'exil et autour aussi des formes qu'elles peuvent prendre, des besoins qu'il y a entre une émission radio qui elle est en temps réel, enfin qui va en temps réel dire il y a une antenne, on peut se faire soigner, il y a une maraude de telle ou telle association, MSF est devant la porte de la chapelle, enfin, du centre de la chapelle, etc. Et d'autres formes d'expression qui doivent être entendues et qui on offre un espace très différent, quelque chose qui n'arrive pas à s'épuiser quand même. Ça fait des années que pour ma part je travaille sur ces questions d'exil et à chaque fois on a l'impression que se réinvente quelque chose, qu'il n'y a pas un média ou une forme qui va suffire, mais il me semble clair aussi, et je pense que vous n'allez pas me démentir, que les formes web, hein, tout ce que permet le web dans le son, dans l'image, est absolument central. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire autour de ces représentations, de ces enjeux de représentation, des réceptions également de ces représentations? Est-ce que vous avez eu l'impression d'arriver à déjouer peut-être ce qu'on appelle souvent, ce qu'on désigne comme le mainstream de l'information, et qui va avoir tendance à créer des masses? On va parler de migration, on va voir apparaître une espèce de masse, alors que là, chaque fois, ce que vous faites, c'est individualiser à la fois la personne et, dans son côté politique, faire émerger un sujet.
Moi, juste par rapport à réussir, du coup, peut-être à sortir de l'information de masse, y a quand même la grosse difficulté qui est de réussir à toucher un public qui n'est pas déjà très concerné par le sujet, très intéressé par le sujet. Donc là, pour moi, c'est vraiment le plus gros challenge qu'on va rencontrer avec ce jeu, quoi, réussir à le faire jouer à des gens qui viennent pour jouer peut-être à la base, qui viennent pour le côté jeu plus que pour des histoires de migration. Donc je sais pas si vous comment vous avez pu constater les échos avec vos projets, si du coup ça vous avez réussi à toucher un public au-delà des gens déjà très concernés ou pas.
On peut le formuler autrement, je veux dire, comment est-ce que ça a touché, quelles ont été les formes de réflexivité ou d'interaction avec les différents partenaires, personnes qui se sont engagées à écrire, à dire, à raconter, comment ça s'est passé. Et peut-être la question subsidiaire, c'est vous l'avez mentionné tout à l'heure, Antoine, des fois ça se passe plus difficilement. Donc aussi pourquoi? Contre quoi on peut lutter, ou qu'est-ce qui peut poser problème ou difficulté?
Moi, je parlerai évidemment que de ce que je connais, donc là du projet qu'on a mené. Je leur dis quelque chose que j'ai dit au départ, le temps long. Prendre le temps de faire les choses, pas travailler dans la précipitation. Nous, en tant qu'association, on est financé par des fonds publics, on a des comptes à rendre, et dire finalement, le résultat arrivera que dans 3 ans, c'est une posture qui est difficile à tenir. Et en même temps, je pense, d'un point de vue éthique qui est nécessaire, on est dans un projet participatif avec des dimensions assez énormes. Précise 400 témoignages, un bouquin qui fait quasiment 2000 pages à la fin. En blaguant, des fois, je disais, on a monté une petite industrie. Il y a quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'acteurs, pour que cette industrie, elle n'écrase pas non plus les personnes qui contribuent? Ça, c'est une question qui est vachement importante, je pense. Et le temps long est une des réponses. Alors, c'est pas la seule. C'est aussi consacrer du temps à chacune des personnes, vraiment prendre le temps de la rencontre, ça c'est quelque chose qui est nécessaire. Et ça veut dire qu'il faut se poser la question, évidemment, de ce qu'on souhaite produire à la fin. Là, c'est la question des formes qu'on choisit, le jeu vidéo. Je pense qu'on a une palette de formes disponibles sous la main, on a des compétences, des savoir-faire, donc on va choisir. Nous, c'était le livre, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc on a choisi ça. Donc on s'est posé la question de la forme. Et on avait l'idée du détournement très rapidement, mais le processus a été extrêmement important. Convié autour de la table des personnes migrantes qui allaient témoigner, des chercheurs en sciences humaines et sociales, des élus, des militants associatifs, pour porter une réflexion sur le projet et comment on le mène. Ça a été un de nos outils, mais je pense que sans ça, on serait tombé très rapidement dans un rapport un peu productiviste de la chose, qui aurait peut-être permis de boucler le projet en 2 ans. Mais je pense qu'on n'aurait pas été satisfait. Et en termes de production de dynamique, on aurait été très loin des effets qu'on a produits là. Et à Rennes, parce que c'est la ville que je connais mieux parmi les 8, il y a une vraie dynamique qui s'est constituée. Aujourd'hui, on organise des lectures public, c'est-à-dire qu'on a un groupe de bénévoles qui reprend ces lettres manuscrites et qui donne des temps de lecture. Alors on en a fait un qui a duré 24 heures où on a essayé de lire les 400 témoignages. On n'a pas réussi. Il faut plus de 24 heures. On a une centaine de bénévoles qui se sont alliés pour ça. La semaine prochaine, on va être sur des formes plus courtes. C'est une sélection de lettres. C'est 5 personnes seulement qui sont sur scène. Mais il y a une véritable envie. Et je pense que derrière ça, il y a une mobilisation. Il y a une envie de reprendre possession des moyens d'expression. Parce que la question migratoire, mais les autres, d'autres questions de société ont tendance à être monopolisées par des approches qui sont des approches assez comptables, que ce soit dans certains discours politiques ou dans les représentations médiatiques. On va très vite, on va sur le nombre, on va sur le phénomène, mais on est très peu dans les expériences individuelles, dans la question de la sensibilité, dans une approche qui est un peu plus humaine. Et je pense qu'on a ce devoir en tant qu'acteur associatif, acteur culturel, acteur artistique, de donner les moyens de faire en sorte que ces expressions plus sensibles puissent avoir lieu. En tout cas, c'est notre positionnement et qu'il faut qu'on continue à prendre la parole et donc à diversifier les formes d'expression.
Parce que là, il y a à la fois le site web et la version papier. Alors, il y a deux, enfin, à chaque fois, ça génère au moins deux, hein, plus les lectures, enfin, donc, au moins deux formes.
Ce que je dis souvent, c'est que nous, on a été très inspirés par Diderot et d'Alembert parce qu'il y avait un projet éditorial derrière leur encyclopédie, il y avait un projet politique à l'époque qui résonne aujourd'hui avec cette idée de sortir des discours obscurantistes. Mais on est aussi des enfants de la génération Wikipédia et on ne pouvait pas imaginer collecter tous ces matériaux pour les enfermer dans du papier. Et le web a été une évidence, alors qu'on a questionné évidemment, mais une évidence pour rendre accessible tous ces témoignages. Un public plus large.
Bonsoir, merci. Les trois travaux sont très jolis, sont très profonds et de trois formats très intéressants. Je voudrais savoir quelque chose que vous avez déjà demandé, mais les réactions de la personne quand il rencontre ce type de medium, là, sur les radios ou l'encyclopédie online, le jeu, je comprends que vous n'avez pas lancé déjà, non? Mais c'est ça. Quelle est la réaction de les personnes qui participent, qui peuvent écouter ou interactuer avec ce type d'histoire? Et Pierre a dit bien, je crois qu'on a un challenge qui est c'est très facile d'accéder à les gens qui sont concernés par cette question, mais c'est très difficile d'accéder à les gens qui ne sont pas concernés. Je crois que le médium peut aider beaucoup pour accéder. Mais comment est-ce que vous voyez ça? Surtout, comment est-ce qu'on peut analyser les résultats de ce type de travaux en la perception de les gens en général sur cette question, après qu'ils expérience le documental audio ou les autres travaux.
Alors,
je pense pas vraiment être la mieux placée pour répondre à ça parce que je pense que les travaux que j'ai présentés sont plutôt écoutés par les gens concernés. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pour Stalingrad Connection, c'est un peu le but. Et puis pour l'autre, en fait, ça s'est construit avec des personnes qui étaient... enfin, la co-réalisatrice, donc Lama Kavanji, qui est sociologue et qui habite à Beyrouth, elle les a accompagnés dans leur démarche de demande d'asile au moment où ils étaient à Beyrouth. Enfin, ça répond un peu plus à votre question à vous. Et du coup, c'est là où la participation s'est faite et où en fait on était dans des places autant au sein du projet qu'en général, on était dans des places. On était dans une relation en fait. Et j'ai l'impression personnellement moi de toujours chercher ma place dans ces, enfin de toujours questionner ma place en tout cas, et ça me fait pour l'instant pas encore vraiment questionner les auditeurs, enfin le public concerné quoi.
Parce que c'est très fort, je ne vais pas vous interrompre, mais c'est très fort ce rap qu'on a entendu, il est fort, on a envie de le diffuser au-delà, enfin on a envie qu'il soit entendu, il est porteur de quelque chose, d'une résistance, d'une colère, hein, d'une volonté de lutter contre l'oubli, contre l'effacement. C'était le sens aussi de ma question, je crois que monsieur la pose aussi. Comment on peut l'entendre, comment le diffuser, entre autres. Mais vous vouliez peut-être répondre également, ça s'adressait...
C'est une question très compliquée, c'est une question qu'on se pose tout le temps, parce qu'évidemment il y a le cercle des convaincus, il y a les personnes avec qui on travaille habituellement et qui on converse habituellement et qui on débat habituellement. Comment sortir de ça? Nous, on a eu une couverture médiatique qui a été plutôt bonne au moment de la sortie. Et moi, c'est une de mes fonctions dans l'association. Je suis chargé des relations avec la presse. Et dès le départ, je savais qu'il y avait un enjeu en fait à rencontrer les journalistes, à rentrer en contact avec eux. Et on en revient à cette idée de prendre la parole et d'être présent dans le débat public. Et le fait d'obtenir un article dans La Croix, un reportage sur Arte, c'est une manière aussi d'être présent, d'occuper le temps et l'espace médiatique. Et ça, je pense que c'est nécessaire parce que toutes les représentations négatives qu'on peut voir vis-à-vis, ou en tout cas stigmatisantes qu'on peut voir vis-à-vis des personnes migrantes, elles sont dans les médias. Donc, à un moment donné, il y a un espèce de rapport de force. Les stratégies, elles sont différentes. J'ai pas de recette, sinon je vous les transmettrai évidemment, mais il faut, je pense, enfin en tout cas c'est l'objectif, d'occuper l'espace et le temps pour encore une fois prendre la parole et dire ce qu'on a à dire. Voilà, après c'est assez différent.
Est-ce qu'il n'y a pas une question de financement
nous,
aussi
nous aussi on espère de financement de la communication peut-être.
Qui finance, je veux dire, c'est les pouvoirs publics ou les collectivités qui reprennent un travail associatif. Tout à l'heure, vous parliez.
Nous, c'était CNC et Arte. Et du coup, pour après toucher le public, ça va peut-être pas passer par Arte, par exemple. Mais nous, on espère réussir à toucher un maximum de gens. Et ça peut se jouer à pas grand-chose, peut-être, parce que du coup, nous, on fait un jeu vidéo, il est du coup repris sur les sites de jeux vidéo. Qui en parle, c'est tout bête, mais finalement c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de lire sur le sujet des migrants syriens. Et après, il suffirait entre guillemets, Apple, il tombe amoureux du jeu et ils le mettent en bannière devant, c'est tous les gens qui ont un iPhone qui vont être à qui on va proposer ça. Donc, une série de beaucoup de chances, de choses qui se goupillent bien, ça peut marcher. On va bien voir.
Je crois qu'on peut terminer comme ça. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Il reste à regarder le site Migrants, l'encyclopédie des migrants, à écouter Radio Grenouille, Fréquence Paris Pluriel, et à acheter le jeu dans un mois. Voilà, merci beaucoup à vous. Donc, dans 2-3 minutes, le temps juste d'une petite régie technique, on va lancer le film de Riti Pan, Exil. Voilà, merci à vous. Bonne suite de programme.